Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
avec Eric Salio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les paris RMC 100% tennis. On va rester à Cincinnati pour les paris du jour. 4 matchs au programme et pour en parler, Eric Salio est là. Salut Eric.
Salut à tous.
Eric, on était tout proche hier. Tu étais tout proche, 3 sur 4. Parce que Paris-Boisson, ça va en 3, victoire finale de Paris. Rodard a atomisé Alejandro Tabilo 1 et 2. Fils a réussi à s'en sortir en 3-7, ça n'a pas été simple. Par contre, Blocks a perdu en 3-7 face à Coboli.
Ouais, c'est frustrant parce que Blocks est passé à 2 points du match. Et je crois que j'ai vu un extrait du match à 5-3-30A. Il sert une première et Coboli frappe un four les yeux fermés, qui prend la ligne pour 1 mm. Et Blocks n'en croyait pas ses yeux. Il dit, mais il y a une erreur d'arbitrage, enfin une erreur du hockey. Donc ça a fait basculer la rencontre. Et puis non, Arthur Fils, c'est bien parce que franchement, j'ai eu du mal à m'endormir cette nuit, j'ai regardé le match. Et il aurait dû boucler ça en deux. Il était au-dessus. Hein. C'était un tie-break malheureusement moyen. Et heureusement, il se reprend derrière. Et là, il a une stat qui est assez incroyable. Hein. Il a gagné les 9 matchs en 3-7 qu'il a joué cette saison. Donc, il y a un 7 partout. Bah, il est plutôt bien dans sa tête. Ouais, c'est intéressant d'avoir une telle stat dans les Masters 8, puisque en Grand Chelem, ça vaut que dalle, évidemment, puisque c'est 3-7 gagnant. Mais tu te rends compte aussi que toutes ces défaites cette année ont été concédées 2-7-0. Ce qui est rigolo. Non, mais 9 sur 9 sur les matchs en 3, c'est bien. Et maintenant, on attend rendez-vous parce que là, on en parlera demain, bien sûr. Il y a un match à venir contre Alex de Minaur. Ouais. Et il peut rentrer dans l'histoire, puisque si mes souvenirs sont bons, il pourrait décrocher un 5e quart en Masters 1000 cette année,
ouais,
qui est énorme. Et il rejoindrait dans l'histoire Joe Wilfried Tsonga qui avait fait ça en 2012.
Eh bien, écoute, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein. Bah oui, c'est tout ce qu'on lui souhaite, Arthur.
Ouais, on espère. On va voir la programmation du match. Est-ce que ça va jouer en plein cagnard, en night Mais de Minaur semble assez jouable ces derniers temps. Hein. Il n'est pas au top. Il a failli perdre contre Quentin Alice. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler demain.
Ouais, il a battu Arthur Ferry au tour précédent en 2-7. Ça n'a pas été non plus chose très facile. Est-ce que tu veux dire un mot sur Paris-Boisson? Parce que hier, tu te rappelles, on en a parlé longuement. On ne savait pas trop de quel côté la balance allait pencher. Peut-être le physique de Loïs Boisson qui allait revenir et qui allait être décisif pour cette rencontre. Finalement, c'est Diane Paris qui s'en est sorti en 3.
Franchement, c'était un bon match, bon niveau de jeu. Loïs a mené un set à break, 6-4-3-2. Et là, elle a commencé à baisser l'intensité. Et Diane Paris a su en profiter. Les conditions n'étaient pas faciles, hein, puisqu'il y avait un taux d'humidité énorme. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. C'est que Diane Paris elle a plus de matchs cette année. Mais Loïs est sur la bonne voie. Franchement, c'est intéressant. Elle commence à trouver une identité sur dur. Et puis parfois, il y a des séquences de jeu où moi j'étais bluffé parce qu'elle a un énorme coup droit, parce qu'on le connaissait.
Ouais.
Mais non, c'est intéressant. Je ne sais pas si elle joue la semaine prochaine ou alors elle va se préparer tranquillement à New York pour l'US Open. Évidemment, il faudra attendre les tirages au sort, mais elle ne sera pas tête de série, c'est assez évident. Ouais. Mais je pense qu'elle peut, elle peut gagner un ou deux matchs à New York, j'en suis convaincu. Bon, puis Diane, on en parlera demain, on aura un match de gala à jouer contre une fille qui est... Je suis en pleine bourre, hein, Gaziantep, mais c'est bien pour Diane Paris qui va peut-être réintégrer le top 50 et c'est un petit rayon de soleil pour le tennis français.
Est-ce qu'il serait une bonne chose pour elle? Je fais juste une toute petite parenthèse, Eric, parce qu'il y avait un match d'un Français hier aussi, on n'en a pas parlé parce que les cotes étaient beaucoup trop déséquilibrées entre Sacha Zverev et Terence Atman. Finalement, alors, victoire de Zverev en deux, ça n'a pas été de notre plus totalement si simple. Hein. Pour l'Allemand, je ne sais pas si tu as vu le match, si tu as envie d'en parler 30 secondes, mais Terence Atman a quand même fait douter légèrement l'Allemand.
7-6-7-6, est-ce qu'il peut avoir des regrets? Non, je crois qu'il a tout donné. Zverev a été plus clinique dans les moments chauds, les moments décisifs, mais franchement, le niveau de jeu de Terence est là. Alors évidemment, il va y avoir un gadin lundi à l'ATP, ça c'est évident. On a calculé, il sera soit 89 ou 90, donc c'est une lourde chute, bien sûr.
Oui.
Mais son niveau de jeu est là, et ce qu'il produit depuis un mois sur le continent nord-américain, c'est très bon. Et souvenez-vous, l'an passé, après sa demi à Cincy, il n'avait pas pu jouer les qualifs de l'US Open parce qu'il était un peu blessé. Cette année, il va jouer l'US Open, ce sera son premier. Et je suis sûr qu'il peut, il peut gratter des victoires. Évidemment, il, ça va aussi dépendre du tirage au sort.
Évidemment, enfin, toujours le même problème. Tout ce, mais oui, c'est toujours pareil.
Franchement, quand tu fais 7-6-7-6 sur Zverev, bah tu.
Ouais, il y a quelque chose à gratter.
Personne.
Quoi. Voilà, il y a quelque chose
t'as à. Personne à craindre, à part les cadors, bien sûr. Mais j'ai noté aussi chez Zverev une vraie motivation. Je pense qu'au fond de lui, il se dit que c'est la période ou jamais pour être numéro un mondial. Parce qu'on a des échos un peu bizarres qui viennent d'Italie. Je parle de Sinner, ouais, bien sûr. On a des échos aussi bizarres qui viennent. Enfin, bizarres. Hésitants qui viennent d'Espagne. Parce que, bon, effectivement, Alcaraz s'entraîne. Mais il va réserver sa décision dans les jours qui viennent. On ne sait pas encore s'il fera l'US Open.
Sachant que ça fait un petit moment quand même qu'il est absent, Carlos Alcaraz.
Et Sinner a un souci au genou. Donc, quand tu regardes le classement, et je pense que ce que Zverev il pense très fort, parce que moi j'ai vu des gestes chez lui de motivation que tu voyais rarement pour un deuxième tour ou un troisième tour, je pense qu'il se dit c'est maintenant. Si je peux être numéro un mondial, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'il faut, évidemment, il ne va pas espérer, il ne va pas prier pour que Sinner et Alcaraz ne viennent pas, mais si jamais ces deux-là ne sont pas alignés à l'US.
Il y a la possibilité, effectivement.
Et voilà.
Et
voilà.
Et ça doit jouer évidemment aussi dans sa tête à Alexander Zverev. On a fait le tour de ce qui s'est passé hier, on va se concentrer sur ce qui va se passer aujourd'hui, cet après-midi et en soirée. Le premier match, c'est Andrei Rublev face à Nuno Borges, 1,56 pour le Russe, 2,45 pour le Portugais. Le Russe est favori, il a battu Carreno Busta au tour précédent. Nuno Borges, lui, a battu Cerundolo et Kokkinakis. Normalement et logiquement, on devrait aller sur le Russe, Eric.
Oui, je pense aussi parce que les conditions de jeu, à mon avis, lui conviennent bien. C'est rapide. Donc on sait que c'est un garçon qui prend la balle très tôt, qui frappe très fort. Alors bon, effectivement, il n'a pas claqué de gros résultats ces derniers temps. Mais je me souviens qu'une année, si mes souvenirs sont bons, il avait battu le grand Federer à Cincy. Et Federer avait dit, en gros, ce sera lui l'élu. Bon, c'était un peu trompé, parce que Rublev n'a jamais atteint une demi-finale en chelem, ce qui est dingue. Mais je pense qu'il a les moyens d'imposer son jeu à Borges, qui a eu beaucoup de mal au tour précédent, puisqu'il a profité d'une blessure de Kokkinakis dans les derniers instants du match. Il s'est fait la cheville, le pauvre Australien. C'est du solide, Borges, mais bon, ça manque un peu de fantaisie, je trouve.
Et il n'a surtout jamais gagné face à Andrei Rublev dans les 5 confrontations.
Oui, ça m'étonne
pas. Voilà. Donc,
sur du rapide comme à Cincy, je joue Rublev.
Très bien. Rublev à 1,56 pour la victoire. En 2,70, c'est coté à 2,25 si jamais il y a un peu plus de difficultés pour le Russe. On arrive à une cote de 3,35, mais tu vois la victoire d'Andrei Rublev. On va partir sur une autre rencontre, celle entre Michael Zeng et Lorenzo Musetti. Là aussi, c'est déséquilibré au niveau des cotes. L'Italien, qui est numéro 15 mondial, est évidemment favori à 1,54. Michael Zeng est à 2,55. Est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise ou alors, comme le match d'avant, Andrei Rublev, on fait confiance à Lorenzo Musetti?
Zeng, c'est le petit jeune qui monte. Hein. Attention, hein. C'est un garçon qui était très fort sur le circuit universitaire. Il bouffait tout le monde. Et là, il m'a l'air de claquer les grosses perfs. Il a battu Hugo Humbert en 2-7.
Ouais, exactement.
C'est un garçon qui est potentiel wildcard pour l'US Open. Donc là, lui, il a besoin de séduire aussi des organisateurs parce qu'on sait que cette année, les invites sont très, très chers. Il y en a presque pas distribué puisque il y en a 3 qui sont déjà attribués. Il y a une sorte de race, il y a universitaire, il y a eu aussi un championnat des 18 ans qui a été gagné il y a quelques jours par un jeune américain, donc lui il a les wildcards. Donc en fait il reste 3 wildcards à distribuer.
Et
beaucoup,
donc,
hein.
Et donc potentiellement puisque, lui il aimerait bien taper dans l'œil d'un organisateur pour pouvoir avoir la sienne, quoi.
Et ce serait presque choquant qu'il n'y ait aucun Américain qui obtienne une wildcard, puisqu'on sait que Wawrinka est candidat, on sait que Dimitrov est candidat, donc il va falloir qu'ils trouvent un équilibre, les Américains, mais un mec comme Zeng, il peut très bien décrocher la timbale. Et alors maintenant, Musetti, il faut qu'il se méfie, parce que c'est un garçon qui a d'énormes qualités, ce jeune. Est-ce que Musetti est revenu à son meilleur niveau? Je ne pense pas. Mmh. Est-ce que les conditions de jeu sont un allié pour Musetti, je suis pas sûr, parce que bon, il fait chaud, humide. je me demande s'il ne faut pas tenter la surprise.
Ah.
Parce que ce garçon vraiment a de l'avenir, il a de l'or dans les mains.
Les dernières défaites de Lorenzo Musetti, bah, je vais remonter quand même jusqu'au printemps, c'est-à-dire jusqu'à Rome. C'était face à Casper Ruud. Ensuite, son autre défaite, c'était à Washington face à Rodar. À Montréal, face à Rodar. Donc, c'est quand même face à des joueurs d'un certain standing.
Non, mais Rodar, c'est...
Oui, voilà. Rodar, il est sur une autre...
Presque.
Voilà, peut-être sur une autre planète en ce moment. Mais toi, tu vois la surprise. Donc, Michael Zeng qui serait capable de battre Lorenzo Musetti pour mon...
Déjà, Zeng qui prend un 7, est-ce que c'est...
Ah, tu vois, je vais regarder.
Ça rapporte bien.
Alors, Zeng qui prend au moins un 7. Non, on est à 1,50, tu vois. On est à 1,50. D'accord. C'est déjà pas trop mal. Si jamais on veut le mettre ça dans un combiné et tout, c'est déjà très, très bien. Mais si on a envie de jouer la surprise et plus que doubler sa mise, 2,55, la victoire de Michael Zeng. Zeng en 3, c'est à 4,70.
Ouais, je m'excite peut-être, mais c'est vrai que quand tu vois les derniers tournois de Musetti, c'est vrai qu'il est tombé sur plus fort que lui et il a pas eu de chance au tirage.
Oui, voilà, c'est ça.
Deux fois Rodar, Rodar, il était monstrueux. Il y a Contabilo, on n'en a pas parlé, mais en plus, il a du lourd parce que il y a une polémique avec l'histoire des lacets.
Oui, il est rentré sur le court.
Il est rentré sur le court et puis tout de suite, il a ouvert son sac et il avait un autre sac en plastique où il y avait 10 paires de pompes Adidas, donc qui étaient déjà lacées. Mais c'est vrai que le problème de... Bon, moi, je pense pas qu'il triche, bien sûr, mais le mec, il rappe tellement le sol que c'est normal que les lacets pètent. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'ait pas de chaussures toutes prêtes. Parce que normalement, c'était comme Tsitsipas. Il y avait souvent les mêmes problèmes. Alors, c'était déjà avec Adidas. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'il prenne un temps fou à relasser ses chaussures. Si tu es professionnel, effectivement, tu dois arriver avec 5 paires de pompes prêtes.
Là, il en avait 10.
Non, mais il a tiré des leçons, hein, parce que c'est vrai qu'il se fait égratigner. Je trouve qu'il y a, ça voit un vrai sujet, on le fait passer pour le vilain du circuit, je trouve. Alors que le garçon, franchement, il est irréprochable. Alors, il y a eu aussi un épisode avec un ramasseur de balles qui l'avait soi-disant bousculé, images...
C'était à Roland, ça.
C'était à Roland.
C'était à Roland, il me semble, non ? Oui, il me semble que c'était à Roland.
C'est possible, oui, c'était à Roland.
Oui, c'était à Roland.
Donc, tu vois, il traîne une image de vilain. Il y a aussi une sorte de lobby sud-américain anti-Rodar. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment qu'il est en train de prendre la place de Fonseca.
Ouais.
Non mais ça devient barjo. Hein. Je lis des trucs sur Twitter, c'est complètement dingue. Et là, le mec, bah, il trouve qu'il a du bulbe. Hein. Il a du bulbe et puis il est intelligent. Et puis au moins, voilà, si jamais il repète ses lacets, ce qui peut arriver.
Il aura 10 paires de pompes de prête.
Il aura une paire de pompes toutes prêtes et ça ne prendra pas 7 minutes. C'est vrai que les lacets, c'est long à installer.
Eh ben oui,
il y en a qui sont plus ou moins à droit pour faire ça.
Eh oui, bien sûr. Il y en a, c'est compliqué à faire les lacets. Donc Musetti, il n'a pas eu de chance pour tomber face à Rodar sur ses derniers tournois. Là, normalement, le tirage lui était censé être plus favorable avec Michael Zeng. Mais toi, Eric, tu vois la victoire de l'Américain. La petite surprise, ce serait... Des fois, il faut prendre des risques. Hein. Tu as raison, Eric. Des fois, il faut prendre des risques. On peut parier sur la petite étoile montante qui a envie de prouver aux organisateurs juste avant l'US Open qu'il a sa place avec la wildcard. Donc, toi, tu vois la victoire de Michael Zeng face à Lorenzo Musetti. On va parler du troisième match. Brandon Nakashima face à Daniil Medvedev. 2-15 pour Nakashima, 1,72 pour Medvedev. Là, les cotes sont un petit peu plus resserrées. Nakashima, il a réussi deux derniers tournois assez sympathiques quand même. Demi-finale à Washington, battu par Fritz. Finale à Montréal, battu par Shelton. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher Daniil Medvedev ?
Moi, je pense que oui. J'attendais avec impatience les cotes. Eh bien, écoute, je suis assez surpris que Medvedev soit favori. Je te le dis franchement. Parce que Daniil, depuis certains temps, c'est pas bon. Il a changé d'entraîneur. Il bosse maintenant avec l'ancien pro André Golubev. Ce qui prouve que dans la tête, c'est pas stable, quoi.
Ouais.
C'est pas stable. Il a tenté Johansson, ça n'a pas fonctionné. Donc là, il fait appel à un pote, de toute façon, qu'il se connaissait bien. Est-ce que ce mec-là va lui apporter la sérénité ? Alors, c'est vrai que sur dur, il y a quelques années, il était injouable, Daniil. Mais c'est plus le cas.
C'était lors de ses grandes années, sa meilleure période à Daniil Medvedev.
Bien sûr, il était injouable. Et quand tu regardes le niveau de jeu de Nakashima, tu peux t'attendre quand même à une surprise quoi, sur le papier. Nakashima aussi, il joue gros parce qu'il peut grimper au classement et récolter un statut de tête de série à l'US qui sera meilleur. Mais surtout, le mec, moi j'ai vu ses stats au service, il est redoutable. Dans l'échange, c'est nickel. Et Daniil, ça manque de confiance quoi, ces derniers temps. Il y a beaucoup de défaites. Non, moi je.
Ouais, je non, mais je comprends, je comprends parfaitement. Ça n'a pas été non plus très, très simple face à Trungeliti, l'Argentin, au tour précédent. Bon, il le bat en 2-7, mais bon, 6-4, 7-5, c'est pas non plus, c'était pas non plus un long fleuve tranquille pour Daniil Medvedev.
Ouais. Je pense qu'il est passé de l'autre côté de la montagne, Daniil. Même si son classement est encore très correct.
Ouais, 7e mondial,
mais... C'est presque. Mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment il est 7. Mais bon. Non mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire ces derniers temps?
Pas grand-chose, dans mes souvenirs en tout cas, peut-être que quelques petits tournois par-ci par-là, et encore je suis même pas sûr. Mais c'est vrai que Daniil Medvedev peine vraiment à retrouver son niveau d'antan, là où il pouvait embêter vraiment les plus grands. Donc tu vois la victoire de Nakashima, je pense que je vais même te suivre sur ce coup. Ce serait quand même la première fois que Brandon Nakashima bat Daniil Medvedev en carrière. Il y a eu 3 confrontations entre les deux hommes. Indian Wells en 2023, Madrid en 2025, Brisbane en 2026. À chaque fois, c'était des victoires de Daniil Medvedev. Mais il y a des fois, les choses changent et Brandon Nakashima...
Il est fort sur Simon.
Oui, Brandon Nakashima a la possibilité donc d'aller embêter Daniil Medvedev. Ce serait aussi, peut-être pas une surprise, mais un joli coup réalisé par Brandon Nakashima sur cette rencontre. Le dernier match qui va nous intéresser, et celui-là, il est aussi intéressant. Lerner Tien face à Frances Tiafoe. Ce sera cette nuit aux alentours de 2h, normalement heure française, selon évidemment le déroulé des matchs. 1,80 pour Tien, 2 pour Frances Tiafoe. Duel américano-américain. Est-ce que Lerner Tien, dont on parle quand même depuis plusieurs, je sais pas comment on peut dire ça, années, mois, est-ce qu'il est capable d'aller titiller Frances Tiafoe?
C'est un match qui est fascinant parce que voilà, c'est deux générations différentes. Tiafoe a totalement raté son début de campagne nord-américaine parce que il avait un souci au poignet, pas la main apparemment, et il a pris une décision risquée, c'est de se faire opérer. Donc il avait un kyste apparemment et il n'a pas traîné quoi. Dès qu'il a été battu au Canada. Hop, direction la table d'opération et le kyste a été retiré. Quand j'ai vu son statut Instagram, je me suis dit, mais là, mec, on ne reverra pas avant longtemps.
Et parce qu'on le rappelle, il s'est fait éliminer du Canada, donc il a abandonné après face à Arthur Hinderknecht. C'était le 7 août, c'était il y a 11 jours.
Ah, c'est ça. Ouais. Ouais, comme quoi la médecine en fait des
miracles.
Incroyable. Non, mais c'était peut-être pas méchant, c'était juste un kyste, donc ils l'ont retiré. Et apparemment, il a fait un super match il y a 2 jours. Je lisais les commentaires, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu comme ça. Donc, ça faisait vraiment enquiquiner depuis quelques temps. Et donc, le soulagement est là. Maintenant, il s'attaque à un mec qui est en pleine bourre.
Demi à Montréal, Lerner Tien.
Ah oui. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas existé contre Shelton, mais Shelton était en feu. Moi, je pense que. Ça peut jouer en 3, mais je vais quand même aller sur Tien parce que je trouve qu'il a un petit truc en plus actuellement. Et Tiafoe, ça manque trop de confiance actuellement. Peut-être qu'il y aura des moments clés dans cette partie, genre des tie-breaks. Et là, c'est là où Tien peut faire la différence, je pense.
Alors, match en 3, c'est coté à 2. Tien tout seul à 1,80. Tien en 3. 3,70. Tiafoe l'avait battu il y a 3 ans, mais bon, Tien à cet âge époque-là. Voilà, il avait 17 ans. Mais Tien a battu Frances Tiafoe en février dernier, c'était à Delray Beach, en 3-7. Il y a des choses, des fois, peut-être que là aussi, Tien va pouvoir essayer de rééditer cette performance en battant Frances Tiafoe. Toi, en tout cas, Eric, tu vois Lerner Tien s'imposer, même en 3-7. Et là, on arrive à une exceptionnelle, pas facile à dire, cote à 3,70. Entre Lerner Tien et Frances Tiafoe. Si on fait le récap de toute la journée, tu vois quand même pas mal de surprises. Hein. Lerner Tien, même s'il est favori pour les bookmakers, bat Frances Tiafoe. Brandon Nakashima bat Daniil Medvedev. La grande surprise, elle est là. Michael Zeng face à Lorenzo Musetti. Victoire annoncée d'Eric Salio de Michael Zeng. Et ensuite, Andrei Rublev qui battrait Nuno Borges. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Eric. Et puis on se retrouve très très vite pour d'autres paris 100% tennis sur RMC. Ça va être passionnant. Ciao.
Ciao.